Merci beaucoup Pierre pour cette présentation. Donc on verra peut-être tout à l'heure à quelle échelle il faut travailler, donc là à l'échelle européenne. On va passer à l'échelle suisse maintenant. Voilà, donc Enrico, vous avez la parole.
Bonjour, bonjour à tous. En attendant que la présentation se lance, je voulais vous dire un mot de l'institution que je représente, qui s'appelle infoclio.ch et qui est en fait un portail web d'informations scientifiques au service de la communauté des historiens en Suisse. Et on agit un petit peu comme un broker d'informations et on publie systématiquement des informations sur les nouvelles publications, les nouvelles monographies, mais aussi les offres d'emploi pour historiens en Suisse, les manifestations scientifiques. Et puis, on a une petite activité de recherche qui traite essentiellement un petit peu de l'adaptation de la recherche historique aux méthodologies et techniques numériques. Et c'est un peu dans ce cadre-là de nos activités que nous développons des projets pilotes dont je viens vous présenter un exemple qui s'appelle justement Living Books About History. Je vais prendre un peu d'avance. Je pensais dans ma présentation vous donner quelques éléments du contexte un peu institutionnel et politique suisse en regard à la publication scientifique et l'open access, pour après vous présenter en particulier le projet Living Books About History. Voilà, c'était ce que je disais. Concernant le contexte, disons, de la publication scientifique, comment est-ce que j'avance ? Quelle flèche ? Je fais comme ça. Voilà. Donc, un petit peu pour le contexte suisse, comme tout bon contexte spécifiquement suisse, il commence à l'étranger, par deux éléments qui viennent un peu tempérer, disons, les discours très progressistes qu'on a entendus ce matin sur l'approche à l'open access, etc. Et je voulais mentionner notamment cette initiative de 2013, je crois, anglaise, où, suite au rapport Finch qui vient d'être mentionné, plus d'une vingtaine d'éditeurs de revues scientifiques en histoire ont lancé une pétition pour refuser de façon assez catégorique cette obligation de l'open access pour toute une série de raisons. En parallèle, en Amérique, la même année, suite à une disposition qui invitait aussi les doctorants à déposer leur thèse en format électronique sur le dépôt institutionnel de leur université, là aussi, l'association américaine des historiens s'est exprimée en publiquement pour refuser cette obligation et exiger un embargo d'au moins 6 ans pour donner la possibilité aux jeunes historiens de publier leur thèse de façon traditionnelle chez des éditeurs traditionnels. Donc, autour de ça, nous est venue la question de savoir est-ce que les historiens formeraient une sorte de petit noyau un petit peu réfractaire au développement de la publication libre accès, et nous a un petit peu motivés à travailler dans ce domaine-là. En Suisse, le Fonds national de la recherche scientifique, en 2014, a changé ses règles de subvention aux publications académiques. Et notamment en imposant de nouvelles règles qui sont résumées ici et qui, et ça c'était, disons, un peu comme un coup de tonnerre dans le paysage de la publication de monographies en sciences humaines en Suisse, en obligeant tous les éditeurs à déposer les monographies sur un serveur ou sur une plateforme en open access après un certain nombre de temps. De même, les coûts d'impression papier n'étaient plus admissibles au remboursement, de subventions publiques. Et puis, comme vous voyez, une série d'autres mesures sur la modification, disons, de ce régime de subvention à la publication scientifique. La réaction qui s'est déroulée en Suisse a été une réaction forte, lancée par les éditeurs. Et quand je parle d'éditeurs ici, il faut penser une constellation de petits éditeurs scientifiques. Et on ne parle plus des grands, des multinationales de l'édition de Springer, etc. Là, on parle de petits éditeurs locaux qui publient des monographies en histoire. Pétition pour, disons, un petit peu crier au boycott et inviter les chercheurs à réagir. Et ça a donné, comme il y en a eu dans d'autres pays européens, une série de débats qui se sont exprimés par un certain nombre d'articles de journaux. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Il y en a un qui a un article. Vous voyez à droite un titre assez explicite qui dit « Gutebücher, les bons livres, benötigen, ont besoin de Zeit, de temps, und Papier, et de papier. » Alors, un exemple pour dire qu'une frange, disons, des chercheurs en histoire reste tout à fait attachée à la valeur du livre imprimé comme, disons, critère de qualité. Là, je vous ai mis quelques chiffres, parce que quand j'ai montré ces chiffres en Allemagne, les gens rigolaient en disant « mais avec des subventions comme ça, nous, on publie trois fois les livres que vous publiez », mais pour dire, disons, à la suite de cette espèce de petit conflit de négociation entre le Fonds national de la recherche scientifique et éditeurs et chercheurs de l'autre côté, voilà un petit peu là où on est arrivé, c'est-à-dire que désormais, les livres sont subventionnés au maximum à cet auteur-là. On parle en francs suisses avec des frais. Et surtout, mais c'est la dernière ligne qui est intéressante, l'embargo pour la mise en open access qui avait été initialement prévu à 6 mois a été repoussé à 2 ans. Dans ces débats, on voit une série, disons, d'opinions que j'ai résumées ici en 4 propositions. La première, et c'est un peu spécifique à la communauté, je crois, des historiens, que la monographie imprimée reste le gold standard de la discipline et que l'imprimé reste perçu comme une marque de qualité. Citation traduite de l'allemand, la publication d'une monographie chez un éditeur grand public est l'équivalent en sciences humaines et sociales de la publication d'un article dans la revue Nature ou Science dans les sciences naturelles, c'est-à-dire le maximum de ce que peut espérer un auteur. Bon. Certaines critiques aussi envers les éditeurs, qui disaient que certains éditeurs ne font pas correctement leur travail, en particulier sur les services éditoriaux. Et puis, cette phrase que je trouve quand même intéressante, qui dit que souvent, les chercheurs eux-mêmes ne savent pas exactement où se trouve leur intérêt quand il s'agit de publier, notamment en open access. En Suisse, on a une série d'initiatives pilotes qui se dessinent autour de cette constellation de la monographie et de l'open access. L'initiative OAPEN-CH, qui a été mentionnée maintenant par Pierre Mounier, à laquelle la Suisse a adhéré, avec l'idée de financer une série de monographies auprès des éditeurs qui seraient ensuite publiées en open access dès leur publication, dès le jour de leur publication. Et puis, en parallèle, de faire un échantillon de monographies qui ne seraient pas mises en open access lors de leur publication, et puis d'ensuite pouvoir comparer un petit peu les chiffres de vente pour voir si, oui ou non, la mise en open access d'une monographie impacte sur les chiffres de vente des versions imprimées. C'est une étude qui est en cours et qui se terminera à la fin de l'année prochaine et qui nous donnera, disons, une série de chiffres. J'avance un peu rapidement. Ça, c'est l'idée du projet pilote. Une première série d'une trentaine de livres sont désormais disponibles sur la bibliothèque OAPEN qui a été mentionnée tout à l'heure. À côté de ça, on a d'autres initiatives institutionnelles, disons au niveau du consortium des universités suisses qui se sont regroupées au sein de cette initiative qui s'appelle CUSP2. Qui prend une série de mesures pour subventionner le passage de certaines revues dans un modèle de publication Gold Open Access. Il y a une série d'études autour de licences nationales qui sont, disons, assez peu satisfaisantes, car pour les licences nationales, en un mot, la Suisse a traité avec 3 éditeurs, Oxford, Cambridge et un 3e éditeur, l'achat de licences nationales pour tout le pays, donc pour toutes les universités du pays. Sauf que ces licences sont... donc les contenus sont accessibles sur les plateformes des éditeurs uniquement, avec des délais d'embargo pour les nouveaux contenus de 3 à 5 ans. Et tout ça pour un coût qui dépasse les 6 millions de francs suisses. Donc, Il y a des voix, qui, notamment de la part des bibliothécaires, qui se sont élevées en Suisse contre ces licences nationales en disant que c'était un peu cédé, disons, au chantage des éditeurs scientifiques. Bon. On est en cours d'élaboration d'une stratégie nationale de l'open access. Ici, c'est la lettre de notre conseiller fédéral, c'est-à-dire équivalent de ministre de l'économie, car notre département de la recherche et de la culture est sous le département fédéral de l'économie, qui charge Swiss Universities, ce consortium des universités suisses, de développer une stratégie nationale pour l'open access. Je passe, et tout ça pour dire que dans ce contexte-là, d'un côté, la réticence des historiens, de l'autre côté, le contexte national autour de l'open access, on a pensé qu'il serait intéressant de faire une petite initiative pilote autour de la question du livre électronique et de la publication en open access. Alors, voilà comment se présente le site. Comme vous pouvez le voir, dès le départ, on joue explicitement avec justement l'homéothétie, pour reprendre ce beau mot utilisé par Pierre Mounier, avec le livre imprimé. On présente sur cette page d'accueil comme une série de ce qui se promet être des livres, sauf que, comme vous le voyez, les pages ne sont pas tout à fait reliées entre elles, et potentiellement, le livre peut éclater. En fait, il ne s'agit pas du tout de monographie au sens traditionnel du terme, mais plutôt d'anthologie. L'idée, c'est que nous avons demandé à certains auteurs, et là, vous voyez aussi l'homéothétie en mettant quand même le nom de l'auteur sur le titre de la page, alors que l'auteur, dans ces anthologies, a réalisé une petite partie. Donc, nous avons demandé à une série d'auteurs de prendre un thème qui leur était cher, d'écrire une courte introduction d'une dizaine de pages originales sur ce thème, et ensuite de sélectionner parmi les contenus librement disponibles sur le web une dizaine jusqu'à une trentaine de ressources librement accessibles qui renverraient, disons, qui compléteraient leur petit essai. Avec ce projet, on voulait, disons, un peu tester les différents sujets suivants. D'abord, comme je l'ai dit, sensibiliser les chercheurs eux-mêmes à l'open access et à justement au libre accès. Favoriser, deuxièmement, la réutilisation des contenus qui sont déjà librement disponibles. Tester le potentiel multimédia du web, car dans ces anthologies, dans ces contenus qui sont liés, on peut avoir des articles, mais on peut bien sûr avoir des vidéos, des sons, etc., tout ce qui est référençable sur le web. Tester les limites juridiques de la réutilisation des contenus, et je vous ai gardé quelques exemples pour la fin, parce que ça, c'est évidemment une pierre d'achoppement assez complexe, car dans le monde de l'open access, il n'y a pas qu'une façon d'être open access, il y en a plusieurs. Et puis, disons, réactualiser un peu le modèle de l'anthologie, et puis utiliser un peu ces auteurs comme un filtre critique qui puisse, disons, offrir une sélection raisonnée sur un thème précis, parmi, disons, la multitude de contenus disponibles sur le web. Donc, rôle de filtre ou d'éditorialisation. On n'a rien inventé, dans le sens qu'on s'est largement inspiré d'une initiative précédente lancée par un chercheur anglais qui s'appelle Gary Hall, qui est intéressé par le post-humanisme et qui avait lancé cette série d'anthologies numériques qui se rapproche sur le modèle que je vous ai présenté, en demandant à des chercheurs d'assembler des contenus déjà disponibles en open access et en présentant une trentaine de livres auprès de cet éditeur qui s'appelle Open Humanities Press, qu'a mentionné Pierre Mounier. Alors, quand on ouvre une de nos anthologies, voilà comment ça se présente. Donc, vous voyez que, de nouveau, on retrouve un simulacre de marque-page pour rassurer l'utilisateur historien qui s'aventure dans l'univers de l'édition électronique, et une introduction qui est librement disponible au téléchargement, aussi bien en format PDF que la lecture en ligne. Et puis, dans ce marque-page, les ressources qui sont listées selon une organisation qui est libre, qui est au libre choix de l'auteur. Certains des documents peuvent être lus directement en ligne. Quand vous voyez la petite fenêtre PDF, ça veut dire que là s'ouvrira le PDF que vous pouvez télécharger ou lire en ligne. Et puis quand il y a un renvoi, ça veut dire que le site vous renvoie vers une ressource qui est à l'extérieur du site. Pour vous donner un exemple, justement de contenu multimédia. Certaines de nos anthologies intègrent des vidéos ou des émissions de radio, pour autant qu'elles soient accessibles en ligne. Ça, c'était l'autre chose. Troisième exemple que je voulais vous montrer intéressant avec ces anthologies, c'est qu'on a une capacité justement d'éditorialiser les contenus du web. Dans l'exemple que vous voyez maintenant à l'écran, l'auteur, en plus de l'introduction, a pris le soin d'écrire un petit commentaire pour chacune des ressources en ligne qu'il a intégrées dans son anthologie. Vous voyez des textes ici qui viennent de façon critique, disons, encadrer, contextualiser la ressource qu'il présente. Un petit détail, juste toutes ces anthologies, pour avoir un peu un accès international, elles sont écrites dans la langue originale de l'auteur, c'est souvent l'allemand, et elles ont été traduites systématiquement en anglais. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est justement le potentiel collaboratif. On en a parlé beaucoup ce matin, on a voulu tester ce potentiel collaboratif en offrant la possibilité aux lecteurs de suggérer une ressource supplémentaire. Puisqu'il s'agit d'une anthologie de ressources, on a dit, en cliquant sur suggérer une contribution, vous pouvez proposer un article qui vous semble pertinent dans la sélection de contenu de cette anthologie. Je vous dis tout de suite, puisqu'on est là, que cette option-là a été peu activée, très peu activée, et sur maintenant 4 mois et demi qu'on a lancé le projet, on a reçu moins d'une demi-douzaine de contributions de la part du public. Bon. Ce qui vient aussi un peu relativiser, le potentiel, du moins pour la recherche scientifique, de la sagesse des foules et du crowdsourcing, parce que mon expérience aussi avec InfoClio, c'est que c'est quand même difficile de motiver des personnes hautement qualifiées à collaborer à un projet de façon, désintéressée. Je ne veux pas insister inutilement sur la question des droits d'auteur, mais les scénarios de réutilisation étaient assez complexes. Ça, c'est un peu le tableau qu'on a présenté à nos auteurs, qui d'ailleurs, pour la plupart, étaient assez ignorants des contextes légaux et des droits de réutilisation ou non des contenus sur le web, en leur proposant un petit peu, genre justement, un tableau qui leur disait, en fonction, de cette grille de lecture, vous pouvez ou pas intégrer les ressources dans votre anthologie. Je voulais mentionner que si de nombreux articles montrent de bonnes pratiques en termes, de conditions légales de réutilisation, notamment en affichant une licence Creative Commons, ou bien en explicitant le fait que ces contenus sont librement réutilisables et accessibles, ou bien encore en inventant leur propre licence, comme le fait par exemple le gouvernement anglais, mais comme le fait aussi le gouvernement suisse avec certaines de ces données. Dans d'autres cas, c'est beaucoup plus complexe. Et ici, par exemple, je vous ai mis un mail de l'éditeur Wiley qui refusait tout simplement la publication ou la republication d'un de ses articles dans l'une de nos anthologies, ou encore la facture de, vous voyez, 418 francs suisses, c'est-à-dire près de 400 euros, pour avoir le droit de poster un article de l'éditeur Wiley dans l'une de ses anthologies numériques sur le site web. Alors, nous, comme c'était justement une expérimentation pour nous aussi, pour voir un petit peu quelles étaient ces conditions, de façon exceptionnelle, on l'a fait, mais ce n'était évidemment pas l'objectif principal du projet. Pour terminer, j'aimerais juste revenir un tout petit peu sur les enseignements, mais aussi un peu les limites de ce projet. Et je voulais dire que, d'une part, on a construit cette infrastructure, mais chacun des livres, même si ça semble comme ça assez facile, demande un travail d'édition relativement important. Parce que, outre la traduction, il y a tout un travail de relecture et de correction des textes, de formatage des références. Et puis, j'ai oublié de mentionner, mais je ne vais pas revenir maintenant, pour chacune de ces ressources additionnelles qui composent les anthologies, on a créé une page attribution où on a une citation complète de la ressource en question et on a pris le soin d'essayer de retracer quel était le régime juridique auquel elle était soumise. Et donc, on a ces pages d'attribution qui vous détaillent, si vous voulez, pour chacune des ressources, quel est son degré d'accessibilité, si oui ou non elle est soumise à une licence de réutilisation ou pas. Parce que souvent, le cas est que des informations importantes sont disponibles sur des sites web, donc librement accessibles, mais sont bien sûr soumises au copyright. Et donc, on peut y accéder, mais on ne peut pas les réutiliser sans, disons, demander la permission ou bien payer des droits de réutilisation. Dernière chose qui complète un peu ce qu'a dit Pierre Mounier, cette initiative, elle a aussi une grosse limite dans le sens où elle reste un peu dans une logique de silo. Alors, oui, nous avons attribué des ISBN à chacun des livres numériques, mais je voudrais répondre à Pierre Mounier que ça ne suffit pas, non pas à Pierre Mounier, je veux dire à Monsieur Mollier, au professeur Mollier, que ça ne suffit pas d'avoir un ISBN pour être référencé sur les catalogues mondiaux de bibliothèques, malheureusement. Pour ça, il faut tout un travail, disons, de référencement et de métadonnées. Et on a des ISBN, mais la logique de silo reste un peu une limitation. Et la question du référencement, notamment dans les catalogues de bibliothèques, est, disons, le travail qui nous reste à venir. La collection est ouverte, donc c'est aussi, nous sommes à la recherche de nouveaux auteurs qui seraient d'accord de se soumettre à cet exercice. Les prochains volumes qui paraîtront à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, ce sera un volume sur l'histoire d'Internet, préparé par une collègue française qui s'appelle Valérie Schaffer, et un volume sur la mode à l'époque moderne. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup Enrico pour cette présentation alors, de ces livres vivants. Donc voilà, on va peut-être discuter après de cette thématique, comment le support permet l'évolution